Béni soit le Seigneur pour sa grâce, sa présence. Ouvrons ensemble sa parole dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Amen. Voilà, nous voyons cet enseignement que Jésus-Christ donne. Et il est bien important de savoir que c'est justement Jésus qui donne cet enseignement. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui annonce la vérité. Par rapport à la vie présente, mais par rapport à l'avenir surtout. Ce passage nous parle de la vie après la mort, de ce qui se passe après la mort. Pour beaucoup de personnes, la vie après la mort, c'est une énigme, c'est un mystère. Ça amène beaucoup de questions, ça amène parfois des angoisses, ça amène des pensées qui nous dérangent, des choses auxquelles on ne veut pas trop penser, réfléchir. Et ce soir, Dieu veut nous parler, Dieu veut parler à nos cœurs et nous donner d'être au clair par rapport à justement ce qui se passe après la mort et nous donner de pouvoir non pas repartir de ce lieu en étant justement effrayé, mais en étant dans la paix, en étant justement libéré, en étant en paix avec lui et en sachant eh bien où l'on va. C'est là vraiment le but de Dieu, c'est là le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas que nous puissions être troublés par rapport à ces choses, non, bien au contraire. Plusieurs personnes sont face à la mort terrifiées. La mort, c'est une réalité indiscutable. S'il y a des réalités ce soir avec lesquelles vous pourrez peut-être discuter, avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, eh bien, il y a une réalité quand même qui est évidente, que l'on accepte tous. C'est la mort. On le voit ici-bas, chaque jour, c'est plus de 40 000 personnes, chaque jour plus de 40 000 personnes qui décèdent. En France, c'est plus de 550 000 personnes qui meurent chaque année. Et on a, je pense, pour la plupart, fait l'expérience de perdre des proches, des amis, des voisins. Encore cette semaine, je connais 2 personnes de mon entourage, 2 personnes qui cette semaine, et ça m'a interpellé d'autant plus par rapport à ce message qui est venu sur mon cœur, c'est pas par rapport à ces événements que j'ai fait ce message, mais parce que je crois que Dieu veut nous parler. Mais c'est pour vous dire que, eh bien, la mort est une réalité indiscutable. On la voit présente autour de nous, et ce soir, Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Elle est la vérité. Pour certains, ce sont des mythes, ce sont des fables, ce sont des histoires, mais Jésus est venu nous annoncer la vérité, la réalité. Et tout ce qui est annoncé, tout ce que Jésus annonce dans ce passage, eh bien, sont réels. Les choses se passeront ainsi. Et Dieu nous donne de pouvoir comprendre simplement, clairement, eh bien, la conséquence de nos choix, de nos actes, ici-bas, parce que tout se choisit ici-bas, tout se choisit maintenant, tout est déterminé sur cette terre. On voit par la suite aucun moyen de revenir en arrière, aucun moyen de changement. Le purgatoire est une invention purement humaine. Aucune page de la Bible ne soutient cette théorie, cet enseignement. Le purgatoire n'existe pas. La Bible ne le soutient pas. Non, par contre, la Bible nous annonce que, eh bien oui, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et c'est pour cela qu'il nous faut prendre garde à ces choses-là et savoir les considérer. Pas les ignorer, pas les mépriser, pas les remettre toujours à plus tard, mais savoir vraiment les considérer parce qu'on ne joue pas. On ne joue pas avec la vie. Ça me fait penser au témoignage de justement un jeune qui s'est engagé récemment par les eaux du baptême et qui pouvait donner ce témoignage, qui s'est engagé justement à donner sa vie à Dieu, à marcher, à obéir à Dieu. Il pouvait dire que dans son témoignage, à un moment donné, il s'est lui-même interpellé, il s'est remis en question, il a considéré sa vie là où il en était et il voyait qu'il n'y avait pas grand-chose de construit, pas grand-chose de bâti, pas grand-chose de sûr et de certain face à son avenir. Et il s'est dit maintenant, c'est fini, j'arrête de jouer. Ça a été la réflexion qui s'est faite. Et avec la vie, il nous faut savoir, on ne joue pas. On ne peut pas jouer avec la vie, c'est sérieux. Et Dieu nous donne de considérer bien justement ces choses-là, au travers de sa parole encore ce soir. Et nous voyons donc ces deux hommes. L'homme riche, on ne connaît pas son prénom, et cet homme qui était pauvre, lui, qui se nommait Lazare. Il y a tout qui les oppose. Sauf un point, quand on regarde, quand on recherche, j'ai trouvé, peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi en étudiant, en recherchant, en méditant ce passage, j'ai trouvé un point commun entre ces deux hommes. C'est que ces deux hommes sont passés tous les deux par la mort. C'est le point commun qu'ils ont. Et c'est le point commun, je le redis, de chacun d'entre nous. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Là encore, la théorie de la réincarnation n'existe pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et donc, nous voyons dans ce passage que cet homme riche qui lui, ne s'est pas préoccupé de Dieu, ne s'est pas préoccupé de son prochain, parce que s'il se serait préoccupé de Dieu, il se serait préoccupé de Lazare qui était là tous les jours à sa porte et qui, lui, était dans la misère. Non, cet homme riche s'est préoccupé de ses propres besoins, s'est préoccupé de lui et a choisi de placer sa confiance dans ses biens matériels et a choisi de vivre voilà cette vie en gardant les yeux fixés sur les choses terrestres, en ne s'occupant pas justement de ces réalités terrestres. De ces réalités célestes, de ces réalités éternelles. Et cela lui a coûté très cher. Nous en voyons les terribles conséquences. Ce lieu de tourment où il a terminé. Ce n'est pas à cause de l'argent que cet homme riche a terminé dans ce lieu de tourment. Ce n'est pas à cause de l'argent. Mais c'est parce qu'il avait choisi de fermer son cœur à Dieu. C'est parce qu'il avait choisi de fermer son cœur à la grâce de Dieu, à son amour, à sa bonté, à son aide, à son secours. C'est parce qu'il avait choisi de rejeter Dieu tout au long de sa vie qu'il a terminé dans ce lieu loin de Dieu. Et à l'opposé, ce n'est pas parce que le pauvre Lazare, c'est pas parce qu'il était pauvre qu'il est allé dans le paradis. C'est parce qu'il a choisi de s'appuyer sur Dieu. C'est parce qu'il a choisi de se confier en Dieu, de lui obéir, de remettre sa vie entre ses mains. Et même si sa vie ne nous est pas entièrement décrite, on le comprend dans cet enseignement que Jésus-Christ donne parce que il nous donne le prénom de cet homme qui est pauvre et il l'appelle Lazare. Et vous savez ce que signifie ce prénom, Lazare? Dieu est mon aide. Dieu est mon secours. Donc on comprend très bien dans l'enseignement que Jésus-Christ donne, ce n'est pas par hasard qu'il donne le prénom de cet homme pauvre et qu'il ne donne pas le prénom de cet homme riche. Mais c'est pour nous donner de comprendre, de réaliser que c'est parce que cet homme, Lazare, a choisi justement d'accepter l'aide de Dieu. Dieu est mon aide. C'est parce qu'il a choisi d'accepter l'aide de Dieu, de la recevoir et de s'appuyer sur Dieu, de placer sa foi en lui, qu'il a été sauvé. et malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré la pauvreté, Dieu était son aide. Dieu était son aide, eh bien, justement, tout au long de sa vie, et a été, eh bien, pour l'éternité, celui qui sera à ses côtés, celui qui, eh bien, comblera sa vie et son cœur. Et c'est merveilleux de voir cette parole où nous voyons qu'Abraham, qui représente la présence de Dieu, Abraham qui est le père des croyants, qui représente justement ce lieu où on sera dans la présence de Dieu pour tous ceux qui auront reconnu, accepté Dieu. C'est merveilleux de voir quand justement il nous est dit au verset 25, Lazare a eu les mots pendant la sienne, maintenant il est ici consolé. Il est ici consolé. J'aimerais te dire ce soir que Dieu ne veut pas attendre. Dieu ne veut pas attendre que tu sois dans le paradis pour te consoler. Mais Dieu veut être ton aide dès ici-bas, dès maintenant. Il y a tant de passages où nous voyons que Dieu est prêt à secourir, que Dieu est prêt à nous aider, que Dieu est prêt à intervenir dans nos vies, dans nos situations, et quelles qu'elles soient. Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas insensible aux difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Ça pourrait être certainement la pensée de quelques-uns en lisant ce texte. Mais si Dieu est l'aide de Lazare, pourquoi Lazare est resté pauvre? Pourquoi Lazare est resté dans la souffrance? Pourquoi Lazare est resté dans la maladie? Il était couvert d'ulcères. Eh bien, il nous faut accepter que Dieu est souverain. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Dieu est souverain, il contrôle tout, il dirige tout, et il fait toutes choses bonnes, parfaites, pour tous ceux qui se confient en lui. Et malgré la souffrance, parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie ici-bas, faite, comme on le dit, à marcher sur des pétales de rose, une vie facile, mais il ne nous a pas promis ça. Il nous a promis d'être avec nous malgré les souffrances, malgré les difficultés, et de nous donner justement la force de les traverser. Dieu est souverain. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est que, eh bien, il sait exactement ce dont on a besoin pour marcher avec lui, pour rester dépendant de lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour rester dans la foi. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, et il ne veut pas nous faire souffrir, il ne veut pas nous voir souffrir, mais parfois Dieu permet certaines situations pour nous apprendre, pour nous faire grandir, pour qu'on puisse bien être des sources de bénédiction et pouvoir aider ceux qui passent par la suite par des souffrances similaires. Parce que dans cette situation, quelle était la personne qui avait le plus besoin d'aide? Est-ce que c'était le pauvre Lazare ou est-ce que c'était cet homme riche? C'était cet homme riche. On le sait, on le comprend, c'est clair. Et c'est pas par hasard si cet homme pauvre Lazare était là tous les jours à sa porte. C'est bien ce qui montre l'appel de Dieu. C'est bien ce qui montre la grâce de Dieu, la patience de Dieu, même à l'égard de cet homme riche. Et la Bible nous dit que Dieu est bien, que Jésus est celui qui frappe à la porte de nos cœurs. La Bible nous dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est celui qui veut entrer en relation avec toi et te donner justement de recevoir son aide. Mais il ne te forcera jamais, il ne nous forcera jamais. Comment réagissons-nous quand nous avons besoin d'aide? Comment réagissons-nous? Est-ce que nous acceptons l'aide d'un frère, d'une sœur, d'un chrétien? Est-ce que nous acceptons l'aide de quelqu'un qui peut nous paraître plus faible que nous? C'était compliqué, c'était difficile pour cet homme riche. Il y a peut-être jamais pensé à accepter l'aide de Lazare. C'était humiliant. Lui, il était riche, il était dans cette position élevée dans laquelle il se croyait, hein, position élevée, mais en réalité, il était malheureusement dans une position très dangereuse. Et il n'a pas su avoir cette attitude d'humilité, et de réaliser l'aide que Dieu voulait lui apporter au travers de Lazare. Et parfois, Dieu veut nous aider au travers de personnes qui sont là autour de nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, la Bible nous dit aussi que l'homme n'y prend point garde. Et Dieu, à plusieurs reprises, nous parle pour nous aider. Tout à l'heure, on partageait avec, justement, les frères et sœurs de cette image souvent que l'on donne quand on parle de l'aide que Dieu veut nous apporter, de cette image qui représente cela, d'un homme qui est à la mer en train de se noyer. Et puis il y a un bateau qui passe et qui justement veut intervenir pour aider cet homme. Et cet homme refuse l'aide de ce bateau et dit non, Dieu va m'aider. Et puis il y a un hélicoptère qui passe, qui s'arrête et puis l'homme toujours pareil, Dieu va m'aider. Et puis on pourrait employer encore d'autres moyens, mais malheureusement, parfois, on peut être très aveugle de l'aide que Dieu veut nous apporter et refuser à plusieurs reprises son aide, sa grâce, son secours. Je crois que ce soir, il nous faut vraiment avoir cette attitude de cœur simple, mais d'humilité. C'est facile quand on est un enfant. En général, on le fait automatiquement. Je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est quelque chose qui se voit, on le sait. Quand on est un enfant, on demande facilement l'aide de nos parents. Papa, maman, j'ai besoin d'aide. Et vous avez vu comment, quand, à force justement qu'on grandit, comment parfois ça devient de plus en plus compliqué de demander de l'aide. C'est étonnant, c'est bizarre, c'est l'humain. Je crois qu'il y a un grand danger à refuser, un terrible danger qu'il nous faut considérer, les conséquences. On voit les conséquences de refuser l'aide de Dieu dans ce passage. Considérons, mes frères, mes sœurs, l'éternité. Il y a une réalité. On parle de la vie présente, parce que Dieu nous parle des réalités éternelles, mais toutes ces choses ont aussi un impact sur notre vie actuelle, présente, ici-bas, dès maintenant. Et c'est dès maintenant, je le redis, que Dieu veut être ton aide, que Dieu veut te conseiller, que Dieu veut te secourir, que Dieu veut restaurer ta vie, ton cœur, veut te diriger dans ses projets de paix et non de malheur. Dès ici-bas, dès maintenant, jusque dans l'éternité. Ne passe pas à côté, parce que nous avons tous le choix, et tu as le choix. Tu as le choix ce soir de recevoir l'aide de Dieu, le secours de Dieu qu'il veut t'apporter. Parce que dans ce passage, si nous voyons que cet homme riche, voyons et nous comprenons qu'il était avare, qu'il était égoïste, la Bible nous donne de réaliser que Dieu, lui, est riche, immensément riche, mais qu'à l'opposé, il est loin d'être avare. Et qu'il n'est pas du tout avare, et qu'il n'est pas du tout égoïste, et qu'il est ce Dieu qui a prouvé son amour envers chacun d'entre nous, et qui a prouvé qu'il justement était riche en miséricorde pour chacun d'entre nous, riche en compassion, qu'il n'était pas insensible, mais riche en bienveillance, riche en grâce, riche en pardon. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a ce psaume, le psaume 86, verset 5, qui nous dit « Seigneur, toi qui es bon et qui pardonne, riche en fidélité pour tous ceux qui t'appellent. » Ce soir, oui, tu peux faire appel à Dieu dans ta situation. Dieu est prêt à t'aider, Dieu est prêt à intervenir dans ta vie. Mais il attend cet appel pour justement que tu puisses recevoir, expérimenter sa grâce. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. C'est le seul chemin, la seule vérité. Et le Seigneur nous parle clairement dans ce passage. Il nous donne de comprendre que c'est seulement en s'appuyant sur lui, en acceptant son aide, son secours, sa grâce, que l'on peut être sauvé. Et son secours, sa grâce, Dieu, je le redis, l'a démontré pour chacun d'entre nous, en venant lui-même sur cette terre. En venant lui-même comme un simple homme sur cette terre. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ afin que nous puissions être secourus dans tous nos besoins, afin que nous puissions recevoir ce dont nous avons le plus besoin, le pardon de nos péchés. Parce que Nous voyons dans ce passage qu'il y a un grand abîme entre le paradis et l'enfer, et qu'il n'y a aucun moyen d'aller d'un lieu à un autre. Et nous voyons comment justement cet homme riche a pris, une fois qu'il était dans ce lieu, conscience de ces réalités, de cette souffrance, a voulu justement que ses frères soient mis au courant et qu'ils puissent que la vérité puisse leur être attestée. Et Abraham a pu justement dire à cet homme, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il y a ce grand abîme. Mais ce soir, il n'y a pas un grand abîme qui nous sépare de Dieu. La Bible nous donne de comprendre que ce qui peut nous séparer de Dieu, c'est le péché. La Bible nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et ce soir, si dans ton cœur tu es prêt à obéir, à placer ta foi en Dieu, à te repentir, à demander à Dieu pardon, Dieu est prêt à te donner le pardon. Il a tout accompli pour cela. Et c'est ce que Abraham va répondre aussi par la suite à cet homme riche en disant Moïse et les prophètes qui les écoutent. En d'autres termes, Abraham à ce moment-là disait, ils ont la parole de Dieu, qu'ils obéissent. Tout est accompli. Il n'y a rien à rajouter. Cet homme riche aurait aimé rajouter quelque chose pour que ses frères puissent être interpellés, mais il n'y a rien à rajouter. Dieu nous parle clairement, simplement, et nous avons tous le choix, et il nous donne tous notre responsabilité. Nous sommes tous là devant ce message, et devant lui, personne ne pourra dire « je ne savais pas, je n'étais pas au courant, je n'ai pas pu choisir ». Nous sommes tous au courant, au clair. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, qu'ils obéissent. Ce soir, obéis, repens-toi. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu verras l'aide de Dieu se manifester concrètement, réellement, pleinement dans ta vie, dès maintenant, dès ici-bas. Mais tu verras cette conviction, cette assurance prendre place dans ton cœur par rapport à l'éternité, l'avenir. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Notre vie ici-bas ou notre vie après la mort? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'éternité, je crois. Comme disait quelqu'un, l'éternité c'est long. Surtout vers la fin. Mais ça nous montre que cette vie est très courte comparée à l'éternité. Mais considérons ces choses-là. Soyons sérieux. Réfléchissons. Et considérons vraiment notre vie. Considérons les choix que nous faisons. Cet homme pauvre... peut-être parce que justement il était pauvre, c'était peut-être les conséquences du fait qu'il n'avait pas choisi justement de s'attacher à des biens terrestres, s'attacher à des richesses terrestres, mais il avait choisi de placer son trésor en Dieu, de placer son trésor dans la parole de Dieu, sa foi en Dieu, et c'est ce qui lui a donné de pouvoir entrer dans des richesses éternelles et d'un immense prix incalculable. À l'opposé, cet homme riche qui a lui choisi de s'appuyer sur ses richesses terrestres a terminé dans une pauvreté des plus terribles, des plus affreuses, des plus atroces pour l'éternité. Considérons ce soir encore la grâce que Dieu nous donne, le sacrifice de Jésus-Christ, ce tout accompli. Oui, Jésus a donné sa vie, il a payé le prix afin que nous puissions... devant Dieu, être en paix, afin que nous puissions avoir cette assurance d'être sauvés. C'est ce que Dieu veut, je le redis. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, ce passage nous montre que tous les hommes ne le seront pas, mais ça reste néanmoins la volonté de Dieu. Et il appartient à chacun d'entre nous de choisir. Ce soir, tu as le choix. Tu as le choix de ta destinée. Tu as le choix de ta vie présente ici-bas. Tu as le choix de ta destinée éternelle. Choisis la vie et non la mort. Choisis la bénédiction ce soir. Choisis l'aide de Dieu. Choisis le secours de Dieu. Choisis de te repentir. Choisis d'obéir. d'obéir à ce que Dieu te demande. Et tu verras l'Éternel, eh bien, te donner d'entrer dans ce royaume de paix, ce royaume éternel, ce royaume où il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de difficultés, ce royaume bien réel. J'aimerais qu'on termine en priant. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es celui qui nous parle clairement, simplement, afin de prendre la décision la plus importante de notre vie, celle qui déterminera où nous passerons l'éternité. Savons que tu nous appelles à t'accepter, à te recevoir le pardon de nos péchés. Et ce soir encore, tu vois les cœurs, tu vois ceux qui peuvent être dans la souffrance, dans la difficulté, ceux qui ont besoin de ton aide, tu les vois. Je te prie maintenant d'éclairer les cœurs et de manifester ta présence. Tu es ce Dieu qui est vivant, tu es ce Dieu qui agit encore aujourd'hui. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Et ce soir encore, tu nous donnes de pouvoir recevoir ton secours. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je te prie de bénir encore ce soir ta parole dans les cœurs. Je te prie d'agir par ton esprit et je te prie, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont venus ce soir encore entendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen.